France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir le sociologue Bernard Lahire qui publie « Enfance de classe » aux éditions du Seuil. Il s'agit d'une vaste enquête réalisée par toute une équipe de chercheurs dans plusieurs villes de France en grande section de maternelle. L'occasion de s'intéresser en cette semaine de rentrée scolaire au rôle de l'école qui ne serait peut-être pas essentiel par rapport au milieu familial et social dans lequel évoluent les enfants, mais n'allons pas trop vite. Notre invité qui travaille sur ces sujets depuis des années nous dira ce qu'il en est. Et comme Bernard Lahire, qui est professeur à l'École normale supérieure de Lyon, a pas mal de cordes à son arc, nous parlerons aussi, si on a le temps, de ses autres travaux passés, lui qui a enquêté sur des sujets aussi divers que les pratiques culturelles des Français, les conditions de vie des écrivains ou encore les rêves. On parlera aussi du rôle du sociologue dans la cité et de son histoire à lui, car elle n'est sans doute pas étrangère à son parcours. Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menahem, réalisé par Marion Lelay, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, des cours de cuisine un peu particuliers, les recettes nomades. À 19h20, au téléphone sonne, pourquoi autant de polluants dans nos organismes? On en parle après la publication cette semaine d'une étude réalisée par Santé publique France auprès de plusieurs milliers de personnes. Bisphénol, phtalates, parabènes, solvants, nous sommes tous contaminés et les enfants sont les premiers touchés. On en parle au 01 45 24 7000. N'hésitez pas à nous appeler.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Bernard Lahire.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur France Inter jusqu'à 19h. Vous êtes, je le disais, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes auteur de nombreux travaux, notamment sur l'école et les inégalités, mais pas que. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez de la suite dans les idées. Parce qu'il y a 30 ans, si j'ai bien vu, vous aviez soutenu votre thèse sur l'échec scolaire à l'école primaire.
Oui.
Et aujourd'hui, vous publiez donc les résultats d'une enquête que vous avez dirigée sur les inégalités entre les enfants de maternelle. C'est un très gros ouvrage, on peut le dire, plus de 1200 pages, publié au Seuil, intitulé donc « Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants ». Cette enquête a été réalisée en grande section de maternelle. Pourquoi Bernard Lahire? Parce que à cet âge-là, les inégalités sont déjà flagrantes, c'est déjà une réalité.
Alors oui, c'est évident, mais en fait on a peu étudié l'enfant du point de vue des différences sociales. Au fond, la sociologie s'est intéressée aux enfants très tardivement dans son histoire. Elle a laissé souvent les psychologues, les pédiatres, les pédopsychiatres, etc.
Comme si c'était que de la sphère privée, c'est ça ?
Ben, comme si l'enfant, en général, pouvait être défini, en fait. Et puis, on se rend compte que ben, les enfants, c'est les produits aussi d'un environnement particulier, de parents qui sont diplômés, pas diplômés, riches ou pauvres, qui ont des grands logements ou des petits logements, qui sortent souvent dans les musées, etc., ou pas. Donc
tous ces aspects auxquels vous vous êtes intéressé dans ce livre, et c'est très intéressant. Pourquoi, Bernard Lahire, les sociologues se sont peu intéressés à la petite enfance, d'après vous ?
Mais alors, je pense que la place était déjà prise. C'est les psychologues qui ont travaillé sur l'enfance en tout premier lieu. Donc, on a un peu divisé le travail scientifiquement. Le problème, c'est que à un moment donné, les psychologues ne sont pas toujours sensibles à ces questions-là. Ils l'ont été dans le passé. Hein. Henri Vallon, qui était psychologue, s'intéressait beaucoup au groupe d'appartenance des élèves, qui était à la fois le groupe des camarades, le groupe scolaire, l'institution scolaire, mais aussi la famille. Et il savait très bien que, bah oui, une famille d'ouvriers, c'est pas une famille de cadres, qui n'est pas une famille de patrons ou d'intellectuels. Donc, déjà, à l'époque, il y avait ce souci-là. Mais disons que c'est quand même normalement le job des sociologues de faire ça. Et ils ont très peu étudié ça. Encore une fois, c'était déjà pris. Et puis, voilà, bah, progressivement, parce que la sociologie a plus d'un siècle aujourd'hui, elle s'intéresse à des objets qui lui échappaient jusque-là.
Il y a quand même eu Durkheim.
Alors oui, et Durkheim d'ailleurs, que j'ai beaucoup cité dans mon introduction, insistait beaucoup sur le rôle de la famille, sur ce qu'on appelle la socialisation familiale, c'est-à-dire tout ce travail éducatif diffus, parfois invisible, etc., qui fait que les enfants sont façonnés, et façonnés de manière différente selon le type de propriété sociale, on va dire, des parents.
Alors, vous écrivez à Bernard Lahire, c'est le début de votre livre, hein, c'est pratiquement la première phrase, si je ne me trompe. Les enfants vivent au même moment, dans la même société, mais pas dans le même monde.
Oui, voilà. Alors ça, c'est une phrase qui a vraiment guidé la recherche. C'est quelque chose qui était un peu l'horizon. C'est-à-dire essayer de se dire, bon, voilà, il y a des enfants qui ont, ben voilà, ils se ressemblent beaucoup, on va dire, biologiquement, il n'y a pas de doute. Hein, ils ont tous deux bras, deux jambes, des yeux, etc. Bon, des capacités cognitives qui sont, sauf problème cérébral particulier, ils sont tous pareils. Sauf que, d'emblée, ils vivent pourtant dans la même époque, ils sont dans les mêmes types de classes, etc. Mais ils sont quand même très très différents, donc ils ne vivent pas dans les mêmes mondes.
Alors, il y a par exemple dans le livre La petite Balkis, qui vit dans la misère la plus totale, la famille dort dans la voiture devant l'école. Oui. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont tout en haut de l'échelle sociale, dans de grands appartements avec des domestiques. C'est ça que vous avez voulu voir, ces différences-là?
Oui, 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 on a voulu alors aller du plus précaire en bas de l'espace social, hein, de personnes qui ont très peu, parfois n'ont pas de logement, les parents et les enfants n'ont pas toujours mangé à leur faim, il y a des problèmes de maîtrise du français, par exemple, ce qui n'est pas peu par rapport à la question de la scolarité des enfants. Enfin, ils cumulent, on peut dire, des handicaps, des difficultés, des obstacles. Et puis, on monte un petit peu et on a des classes populaires qui sont un peu plus stabilisées, qui vont déjà un peu mieux, qui ont un peu plus de possibilités de regarder l'avenir, qui ont parfois un peu de stratégie pédagogique, etc.
Et on
remonte aux classes moyennes, avec des classes moyennes très différentes selon que vous avez beaucoup de diplômes ou pas. Bon, c'est un enseignant, c'est pas un agriculteur, un petit commerçant, c'est pas un employé, etc. Et puis on monte encore, et là aussi on a des classes dites supérieures avec les intellectuels et les patrons, quoi, et puis des professions libérales au milieu qui sont là. Et à chaque fois, c'est extraordinairement...
C'est une réalité différente pour les enfants. Alors,
oui.
La grande question, Bernard Lahir, c'est comment on procède quand on a affaire à des enfants de 5-6 ans? Parce qu'évidemment, c'est pas des adultes. Comment on fait? On va leur parler, on va leur poser les questions, mais il y a des limites quand même à l'exercice,
à cet âge-là. C'est aussi une manière de répondre à votre première question. Pourquoi les sociologues ne sont pas allés très rapidement auprès des enfants? C'est qu'il y a une tradition sociologique qui consiste à... passer des questionnaires, passer des entretiens, faire des interviews avec les gens, etc. Et faire des interviews avec des enfants. Alors moi, j'avais commencé dans les années 90 à faire avec des enfants de 8-9 ans et je voyais déjà que c'était difficile. Mais alors quand vous en avez de 5-6 ans, comme c'était le cas là en grande section de maternelle, oui, ils parlent pas comme des adultes. Donc c'est un vrai problème d'accès, effectivement, à leur réalité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ben on a contourné.
Vous êtes allé les voir quand même.
On est allé les voir, absolument. On est allé voir. On a fait des observations en salle de classe. On a vu leurs enseignants. On a fait des petits exercices de langage avec eux. On a monté des petits exercices pour voir leur capacité à raconter des choses, à nommer des choses, le type de vocabulaire qu'ils pouvaient avoir, de stratégie langagière quand ils répondent à une question, etc. Et puis, on a contourné aussi, parce qu'on ne pouvait pas avoir toutes les informations de la part des enfants, donc on a vu 3 fois les parents, on a vu la nourrice ou la grand-mère, ou voilà, une personne en dehors de papa-maman, on va dire. Et puis, on a fait des entretiens avec les enseignants, qui sont essentiellement des enseignantes.
Vous avez vu tout l'entourage, c'est beaucoup de travail. Oui. Vous êtes intéressé à 35 enfants de 5 à 6 ans. Là, il y en a 18 dans le livre, mais il y en avait 35 au départ. Précision importante, c'est dans toute la France, dans plusieurs villes en tout cas.
Oui, dans nombreuses villes, on a voulu faire varier rural, urbain, on a voulu faire varier grande ville, petite ville, parce qu'il y a des inégalités de ressources aussi qui sont territoriales. Donc on a des cas qui sont très différents en banlieue ou en centre-ville, dans la capitale ou dans différentes régions de France. On a essayé vraiment de voir des choses très différentes, des réalités différentes.
C'est un gros boulot. Il faut toute une équipe pour faire ça, Bernard Lahir. Voilà. Vous avez dirigé les opérations, mais vous étiez combien en tout? 17 sociologues, c'est ça?
En tout, on était 17, oui. 17 et des personnes qui sont compétentes dans des domaines extrêmement différents, parce qu'on a voulu, on n'a pas voulu se concentrer sur un type d'inégalité. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les inégalités d'accès à la culture, les inégalités scolaires. Mais j'avais peu travaillé sur, voire pas du tout, sur la santé, sur l'alimentation, sur le logement, etc. Donc, en étant 17, eh ben, ça fait un intellectuel collectif très très fort. On a cumulé, c'est une intelligence collective. Et je pense que d'ailleurs, les travaux en sociologie devraient être beaucoup plus collectifs, parce qu'on avance plus vite, c'est plus compliqué aussi. Hein. Je vous cache pas que c'est fatigant aussi pendant 4 ans, de mener une recherche.
Alors, 2014 à 2018, voilà, ça voilà. A duré. Et c'est vrai, c'est un gros travail, vous le disiez. Hein. Conditions de vie, de logement, de travail, de salaire, les pratiques religieuses, culturelles, oui. Sportives, le rapport à la discipline, autant à l'argent. C'est fourni, faut synthétiser. Oui. C'est un sacré boulot. Alors on va évidemment, Bernard Lahaye, revenir sur un certain nombre de points, de conclusions de tout ce travail. Mais on va quand même s'arrêter, comme tous les vendredis, tout d'abord à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hilla. On commence par les féminicides, malheureusement en hausse dans notre pays.
Il l'a battue à mort, il sautait sur elle comme sur un trampoline. Et tout ça, j'étais en contact avec la police, hein, je leur expliquais tout en leur disant « Mais là, c'est fini, mais vous êtes où ?» Je suis restée avec eux au téléphone jusqu'à ce que... la jeune se fasse assassiner, en fait.
Salomé avait 21 ans. Son corps a été retrouvé sous un tas d'ordures à Cagnes-sur-Mer. Au même moment, ou presque, dans le Tarn, c'est une femme de 92 ans qui est morte sous les coups de son mari de 94 ans. Tout cela à la veille du Grenelle contre les violences faites aux femmes.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fonds, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout.
On est venu, on a vu, on est déçus. Caroline De Haas, du collectif Nous Toutes.
Il n'y a quasiment aucun moyen mis sur la table. Le Premier ministre refuse de répondre à cette question et la balaye d'un revers de main, comme si les moyens n'étaient pas la question centrale.
Mais Édouard Philippe assume.
Certains ne parleront que des moyens. Je ne dis pas que c'est un mauvais sujet. Je pense que ce n'est pas le sujet essentiel.
Dans 6 mois, les municipales. À Paris, le nouveau monde rattrapé par les démons de l'ancien monde. Cédric Villani annonce sa candidature et il choisit de le faire au café Gaîté, histoire d'appuyer où ça fait mal.
Je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris.
Cédric Villani, candidat alors que La République En Marche a désigné Benjamin Griveaux comme tête de liste dans la capitale. Joli casse-tête en perspective pour la majorité présidentielle. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Je suis déçue parce que il avait pris un engagement, puis finalement il ne respecte pas la parole donnée.
Pas question pour autant d'exclure le dissident, il faut dire qu'il a des soutiens et que Benjamin Griveaux ne fait pas forcément l'unanimité chez les sympathisants de La République En Marche.
Griveaux, c'est rien, c'est zéro.
Il est prévisible et nous on a besoin de quelqu'un d'imprévisible.
Le personnage même lui-même est odieux.
Deux candidats pour le prix d'un, chez les Républicains réunis à la Baule, on en a vu d'autres. Pas de quoi décourager Christian Jacob.
Je pense qu'en matière de division, j'ose espérer qu'on a coché à peu près toutes les cases. On est à jour.
Christian Jacob, un des 3 candidats à la présidence du parti avec Guillaume Larrivé et Julien Aubert dans le programme, sent un peu le réchauffer.
Moi, je vous propose de renouer avec l'esprit du RPR, le vrai, celui de Philippe Séguin et Charles Pasqua. Mais permettez-moi de vous le dire aujourd'hui. Il va falloir nous réveiller.
Bonne nuit, les petits.
Disparition cette semaine de Marcel Ledain, 90 ans, le marionnettiste de Nounours, parti à l'heure où les petits faisaient leur rentrée.
Moi, je suis contente d'aller à l'école parce que j'aime bien faire des ateliers. Il y a les garçons, ils nous donnent des gros mots à nous. Par exemple, on pue ou nanana. C'est pas grave. J'ai une grande section. J'ai un petit peu peur.
Quand on va à l'école, on s'assied sur un banc. Et tout ce qu'on apprend est tellement intéressant que tout le monde est content. Oh, je veux y aller, je veux t'accompagner. Parce que c'est à l'école qu'on connaît.
Et encore un très grand merci à Céline Hila pour la mise en onde de ce mix de l'actualité. Bernard Lahir avec nous jusqu'à 19h. Nounours, bonne nuit les petits, c'est votre génération, hein, ça, Bernard Lahir. On peut pas dire le contraire, hein. Vous êtes né en 63, c'est ça?
Ben, j'avais le droit de regarder, oui.
Voilà, c'est ça.
Et d'aller me coucher juste après.
Voilà. Parce que c'était ça, la télé à l'époque, hein, c'était pas le même éclat qu'aujourd'hui, il y avait pas grand choix, mais enfin, on va parler, tiens, on va commencer par les écrans, parce que ça fait partie des conclusions de vos travaux, enfin des observations que vous avez pu faire. Cette question, elle fait régulièrement couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que vous avez constaté à ce sujet? Quelle différence entre les milieux sociaux, Bernard Lahir?
Il y a toute la palette en fait de comportements face à la télé. D'abord, vous avez des milieux très diplômés, que ce soit dans les classes moyennes ou les classes supérieures, qui décident de ne pas avoir de télé. C'est le premier choix radical.
Et en général, certains. D'écouter France Inter. Ça, c'est un petit peu
oui,
ce que je rajoute France comme ça.
Inter.
C'est pas forcément pour les enfants, mais...
Mais absolument. Et puis France Culture aussi.
Oui, c'est vrai.
Mais en tout cas, il y a la décision de ne pas avoir la télé. Après, il y a ceux qui ont la télé, mais qui contrôlent vraiment de près le temps passé devant la télé, ce que l'on regarde à la télé. On peut d'ailleurs utiliser la télé comme... Pas du tout la télé de flux, c'est-à-dire on laisse pas la télé allumée du tout. On va chercher des DVD à la médiathèque qu'on a choisi très très soigneusement pour leur qualité esthétique, poétique, tout ce que vous voulez, et on regarde avec les enfants ces films. Donc il y a ça, et puis après il y a ceux qui laissent un peu plus de temps. La télé peut être un moyen de garder les enfants
dans les milieux
tranquilles,
plus populaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un contrôle d'une autre façon.
Il y a des contrôles. Il y a quand même des contrôles, et on voit bien déjà qu'il y a à l'intérieur des classes populaires qu'il y a des familles qui essayent de se distinguer justement par le fait que ils commencent à percevoir que bon, il serait peut-être mieux qu'on lise, qu'on fasse autre chose, qu'on ait des temps hors écran, et donc ils commencent à contrôler ça. Mais disons que les plus grands contrôles sont le fait des parents les plus diplômés.
Alors, vous parlez des livres, c'est important. Vous vous êtes intéressé à la place du livre dans la maison, hein, dans l'appartement, enfin dans le lieu de vie. Est-ce qu'il y a une bibliothèque? C'est important, ça aussi?
Oui. Le livre, il est évidemment au cœur de l'école. Il est au cœur parce que déjà, enfin, l'enjeu, c'est d'apprendre à lire et à écrire progressivement. C'est de rentrer dans une culture qui est très largement écrite, même quand c'est de l'oral, c'est de l'écrit. Parce que on parle d'une manière très écrite à l'école. On fait des phrases, on essaye d'avoir une expression explicite, avec un vocabulaire précis, etc. Et ça, c'est des exigences d'une culture écrite. Et donc, plus les enfants ont accès tôt à cette culture écrite, avec des parents qui lisent des histoires chaque soir, qui lisent eux-mêmes et qui donnent l'image de parents lecteurs. Donc il y a une identification. On sait très bien qu'il y a des enfants qui peuvent ouvrir un livre et faire comme papa ou maman. C'est des choses qui sont importantes, parce que c'est au cœur, encore une fois, de ce qui va se jouer à l'école.
Vous avez donc vérifié tout ça aussi à travers ce dont vous parliez tout à l'heure, ces fameux exercices langagiers que vous avez soumis
C'est une manière de voir les effets que ça a, parce que on voit effectivement des enfants qui sont habitués à ce qu'on leur raconte des histoires et qui ont une sorte de capital narratif, par exemple. Il y en a quand même qui essayent, quand ils nous racontent des histoires sur la base d'images, ils essayent d'utiliser le passé simple, ils sont en grande section. Alors, ils l'utilisent pas toujours très correctement, mais on voit bien qu'il y a des intentions, parce qu'ils ont entendu le passé simple à de nombreuses reprises. Ils connaissent le « il était une fois ». Ils savent qu'une histoire, il peut y avoir une chute. Tout ça, c'est des choses sans
Vous prendre. Insistez beaucoup là-dessus, hein, sur la façon dont on apprend aux enfants à manier le langage, si on leur apprend à manier l'ironie, quand on leur apprend la contradiction, le double degré, la conversation. Tout ça, ça a un impact.
Oui, parce que l'école travaille en fait sur le langage. L'école demande à ce que le langage soit, utilisé de manière à la fois précise et qu'il soit analysé. Déjà, apprendre à lire, à écrire, c'est analyser le langage. On est obligé de découper le langage. Alors, le souci des parents, par exemple, de faire bien prononcer les mots à leurs enfants est un souci directement lié à la culture écrite, puisque bien prononcer, c'est pouvoir bien l'écrire. Quand il va falloir déchiffrer, il est extrêmement important, effectivement, d'avoir une bonne prononciation, parce que c'est une manière déjà quasiment de d'épeler, d'analyser le flux sonore. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui paraissent anodines et en fait qui sont importantes.
Et qui sont le marqueur de grandes différences dans les milieux populaires. Vous insistez, on a tendance à laisser les enfants tranquilles, entre guillemets, à penser qu'ils sont trop petits pour certains sujets. Oui. On les stimule pas, hein, ce qui est le contraire dans les milieux plus favorisés.
Alors je dirais pas qu'on les stimule pas, mais on ne les stimule pas dans ces zones-là ou dans ces domaines-là, alors que effectivement ces moments-là qui vont être beaucoup travaillés dans les autres milieux font prendre de l'avance, en fait, font gagner du temps aux enfants, parce qu'ils arrivent à l'école et ils savent déjà parler comme il faut, ils savent déjà beaucoup d'histoires, ils ont beaucoup d'histoires dans la tête, ils savent parfois calculer. On a le cas d'un enfant, fils de Normalien, qui sait déjà compter jusqu'à 1000. Vous voyez, les différences entre les enfants sont parfois abyssales. Et donc, voilà, oui, il y a cette...
Donc l'école se retrouve avec des inégalités pareilles. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'école Bernard Lahire? Quel est son rôle par rapport à tout ça? Est-ce qu'elle peut y remédier? Est-ce qu'elle peut corriger les choses ou pas du tout? Alors, c'est illusoire.
Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que tout le monde, en fait, peut jouer son rôle. Si on ferait pas une analyse de l'état des inégalités, si à la fin on disait et donc il y a rien à faire, parce que il y a rien à faire, ça voudrait dire c'est dans l'ordre naturel des choses et on ne peut rien changer. Donc l'école peut faire quelque chose, mais l'État aussi peut faire beaucoup pour aider les familles, pour avoir une politique du logement, une politique de l'emploi, une politique.
Ça se passe pas qu'à l'école, c'est ce que
non,
vous voulez
me dire. Non, ça se passe pas qu'à l'école. Et je pense que c'est ça qu'on a voulu dire, parce que souvent on se tourne vers effectivement ceux qui ont affaire aux enfants. Mais enfin, ceux qui ont affaire aux enfants, en l'occurrence les enseignants, voient arriver des enfants dans des états extrêmement différents. Et du coup, ils ne peuvent pas, d'un coup de baguette magique, transformer ces différences. Quand pendant 3 ans, avant d'arriver jusqu'à eux, ils n'ont pas eu le même type d'interaction, le même type d'expérience, etc., ils ne peuvent pas refaire toute cette histoire. Donc, bien sûr qu'on peut agir à l'école, et il faut des moyens supplémentaires. Il faudrait que les enseignants aient beaucoup moins d'enfants que ça devant eux pour pouvoir les stimuler, être beaucoup plus présents.
Le dédoublement des classes, c'est une bonne chose.
C'est une bonne chose, mais c'est en deçà.
Et le fait de scolariser tous les enfants à 3 ans aussi, c'est une bonne chose.
Alors, la quasi-totalité des 3 ans était déjà scolarisée. Hein. Bon, mais
vous seriez pour qu'on descende plus bas encore?
Ah ben, on sait clairement, là, après, moi je suis pas politique, c'est aux politiques de décider, mais on sait en tout cas que ceux qui sont scolarisés dès 2 ans, en milieu populaire, c'est une aide considérable. Donc on a les chiffres qui prouvent que scolariser dès 2 ans, or on a plutôt déscolarisé les 2 ans au cours des dernières décennies. Ah oui. Donc ça c'est un vrai problème. Il y a un rapport européen là-dessus qui montre très très bien que c'est des inégalités qu'on a créées.
Et on sait aussi que l'école renforce les inégalités. Ça, plusieurs études nous l'ont montré, mais pas forcément dans les petites classes. Hein, l'étude PISA, l'étude du CNESCO. Enfin, en France, on a quand même un souci à ce niveau-là. Bernard Lahire, est-ce que vous avez été surpris par certains résultats de cette enquête, de cette très vaste enquête que vous avez dirigée? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment étonné ou pas?
Bah, écoutez,
ou est-ce que ces inégalités, en fait, globalement, on en avait déjà conscience?
Au fond, quand on est sociologue, notre métier, c'est malheureusement... Hein, parce qu'on aimerait être porteur de bonnes nouvelles, hein, mais quand on travaille sérieusement sur l'état du monde social, on sait que ces inégalités existent. Simplement que ce que l'on voit, c'est souvent inégalité par inégalité. Vous pouvez très bien d'ailleurs faire des reportages sur les inégalités en matière de logement.
Morceau par morceau.
Et puis voilà, morceau par morceau. Sur l'alimentation, sur l'accès à la culture, sur les problèmes scolaires, sur l'accès au sport, tout ce qu'on veut, aux loisirs. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment combiner tout ça. Donc en fait, c'est plutôt un effet de cumul de toutes ces choses-là qui donne, qui fait un peu peur,
voilà,
au fond.
Et c'est, vous dites, l'espoir qu'après avoir lu le produit de ce travail, on ne puisse pas dire qu'on ne savait pas. On continue à parler évidemment de tout ça avec vous, Bernard Lahire, puisque vous êtes avec nous jusqu'à 19h sur France Inter.
Tu penses à quoi ? inutile. Loin d'être sage, je songe comme un singe des villes.
Tu penses à quoi?
Ému par l'univers, quand ma vie danse en transe au bras de l'enfer.
Mathieu Chédid, choix musical signé Joubaka.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
Une semaine en France, toujours en compagnie du sociologue Bernard Lahire, qui publie Enfance de classe aux éditions du Seuil. Bernard Lahire, à ce stade de l'émission, on s'intéresse au parcours de notre invité, c'est comme ça, parcours professionnel, personnel. Vous n'allez donc pas y échapper. Et puis, c'est pas vous qui avez écrit sur l'importance de connaître le parcours des auteurs en littérature, pour qu'il allait nous dire que c'est pas important. J'ai cru comprendre que vous étiez un transfuge de classe, c'est ça, que vos parents avaient le certificat d'études pour l'un, un CAP pour l'autre.
Oui.
Que vous avez grandi en HLM ?
Oui, pas seulement, mais oui, beaucoup en HLM, oui.
C'est peut-être ce qui vous a amené à vous intéresser à ces différences entre les enfants, ces inégalités ? Il y a un petit côté lutte des classes, hein, dans votre travail, là.
Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, nous, on n'a pas utilisé le terme lutte de classe. Hein. En tout cas, l'idée de classe me paraît être une idée centrale en sociologie. Enfin, je vois pas comment on peut étudier le monde social sans tenir compte des grandes conditions d'existence des individus. Sinon, je ne sais pas ce qu'on ferait.
Et vous venez, vous, donc, d'un milieu ouvrier, et vous dites que vous avez été étonné de vous retrouver un jour à l'université.
Ah oui, clairement. Ben, j'étais le premier de ma génération à avoir, enfin de ma famille, à avoir le baccalauréat. Et puis, j'ai été le premier à accéder à l'université. Et je pourrais vous raconter comme ça que quand j'ai eu mon DUG, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc aujourd'hui c'est des licences, première année, deuxième année, je ne savais pas que la licence existait après. Et puis après la licence, j'ai appris qu'il y avait la maîtrise, etc. C'est-à-dire que je découvrais... pas après pas, je savais pas que les classes préparatoires existaient.
Alors vous êtes
voilà, des choses comme ça.
Vous êtes à Lyon, vous êtes toujours dans cette région, dont vous avez parlé un jour dans une tribune parue en Récit de Libération. À propos de votre ville, cette tribune s'intitulait « La ville et le soi ». Alors je vais juste quand même citer les premières lignes parce que je les ai trouvées sympathiques. « Je serais bien incapable, avez-vous écrit, d'écrire sans rire des pages poétiques sur Lyon. L'idée de se présenter comme lyonnais, bordelais, parisien m'a toujours paru étrange. Né à Lyon, donc lyonnais, mais né de parents migrateurs ayant quitté ce qui avait été une partie de la France, à savoir l'Algérie. » Vous êtes un déraciné, Bernard Lahir, quelque part ?
Mais il y a une longue histoire, en fait. Alors moi, je ne suis pas un déraciné, je suis né à Lyon. Bon.
Oui, mais si vous l'évoquez, c'est que...
Mais oui, mais parce que...
Dans votre histoire, c'est important.
Absolument. Mais parce que ma famille était... D'abord, mes grands-parents, du côté maternel, les seuls que j'ai réellement connus, venaient de l'Andalousie, ils sont allés en Algérie, qui était donc française à l'époque. Mes parents sont nés en Algérie, et puis ils sont partis au moment de l'indépendance. Voilà. Moi, je suis né juste après. Voilà, je suis né à Lyon, mais du coup, mes grands-parents étaient migrateurs de l'Espagne vers l'Algérie, puis mes parents de l'Algérie, migrateurs, parce que c'était quand même pas le même pays, et ils arrivaient en France, et mes parents ont toujours dit, en fait, on n'est pas chez nous. Donc moi, j'ai toujours entendu, j'ai une sorte de culture de l'immigration. Quoi.
Vous écrivez toujours dans cette tribune, dans toute ville, il existe des zones incertaines. C'est dans ce genre de non-quartier que j'ai toujours le mieux trouvé mes marques. Les seuls territoires personnels que je pourrais revendiquer sont mon bureau, logé au cœur de l'espace domestique, et la discipline d'appartenance, la sociologie. Bah dites donc.
Oui.
Hein
bah oui,
travail, hein.
Après
travail,
je me rends compte que je suis français quand je vais à l'étranger, mais parce que je parle pas toujours très bien les langues étrangères, mais sinon oui, j'ai pas une sorte d'attirance ou d'ancrage identitaire, enfin je me sens pas lyonnais, je me sens pas...
Vous vous sentez sociologue en tout cas, défendez cette discipline contre ceux qui vous attaquent. Vous avez publié en 2016 un livre intitulé Pour la sociologie, et pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse. Je crois que c'était l'époque où Manuel Valls, après les attentats de 2015, nous disait expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Bernard Lahir, pourquoi est-ce que la sociologie dérange à ce point? Parce qu'elle elle montre les rapports de domination, c'est ça? Et elle dérange ceux qui ont des privilèges, c'est ça la raison majeure?
Elle dit que des choses qui fâchent. Enfin, si vous voulez, quand on dit que la France est un pays démocratique et que vous montrez que et un pays qui prône l'égalité, ce qui est déjà une très bonne chose, puisque tous les pays n'ont pas prôné l'égalité, donc c'est déjà bien de vouloir mettre en avant l'égalité. Mais quand nous on est là et on mesure des inégalités en permanence, des inégalités hommes-femmes, des inégalités entre classes sociales, des inégalités entre régions, voilà. Donc forcément, à chaque fois, on dit des choses qui ne plaisent pas à ceux qui ont des privilèges, ça c'est clair. Et autant les historiens travaillant sur des morts, tout le monde est ravi de montrer, de mettre en exergue des travaux d'historiens qui portent. C'est tellement loin. Tout le monde est ravi qu'on parle de ces époques-là, mais alors dès que c'est aujourd'hui, dès qu'il y a cette effrayante réalité-là devant nous, là ça fait peur. Et donc, comme on est porteur en permanence de mauvaises nouvelles, on a plutôt envie de tuer les porteurs de mauvaises nouvelles que de considérer que, ces nouvelles-là, il faut les prendre.
Ça veut dire que les politiques, là, ils se précipitent pas sur votre livre pour...
Je n'en sais rien.
Vous ne savez pas encore.
Je verrai bien.
Vos étudiants, Bernard Lahir, vous êtes professeur donc à l'École normale supérieure de Lyon. Ce sont des étudiants qui sont... J'imagine de milieux quand même assez privilégiés qui feront partie des décideurs de demain. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel message vous leur faites passer à ces étudiants?
Le message que je fais passer à tous les étudiants. D'abord, j'ai pas que des élèves normaliens. J'ai aussi des étudiants qui sont de l'université Lyon 2, qui n'est pas loin. Et je dis à tout le monde la même chose, c'est-à-dire que je m'adresse pas particulièrement aux normaliens quand je parle, on fait de la sociologie très générale, et effectivement, on leur dit que même, arriver à normal sup, comme on dit, il y a des conditions sociales pour arriver à ces lieux-là. C'est pas des écoles qui attirent beaucoup de gens de milieux populaires. Hein.
Vous avez travaillé sur beaucoup de choses, Bernard Lahir, on pourrait rester des heures en parler avec vous. Vous avez même travaillé sur les rêves, ce qui là aussi est étonnant pour un sociologue. Vous avez publié l'interprétation sociologique des rêves, c'était l'année dernière, je ne me trompe, et vous aviez annoncé un deuxième volume, c'est toujours d'actualité.
Absolument. si vous me réinvitez, je reviens l'an prochain.
Pourquoi c'est important de s'intéresser aux rêves?
Alors pour moi, c'est
vous fondamental. Avez une minute, hein, malheureusement pas plus.
Eh ben, c'est fondamental parce que je pense qu'il se dit des choses dans les rêves qui sont sur le monde social, qui sont fondamentales. Les gens, en fait, c'est une sorte de sociologie des soucis et des préoccupations. Vous ne rêvez que de choses très importantes pour vous, et en plus, quand vous rêvez de choses souvent très cash, parce que vous cachez pas grand chose. Et du coup, en allant directement au rêve, on va vers les soucis, les problèmes, les préoccupations. Et ça me paraît important quand on travaille sur le monde social.
On en reparlera, c'est promis. Vous nous expliquerez notamment comment vous faites pour interroger les gens sur leurs rêves. Je crois que vous leur avez demandé de tout noter.
Oui.
On va passer maintenant, comme tous les vendredis, aux bonnes ondes de Sandrine Houdin pour voir le bon côté des choses. Ne jamais oublier qu'il y a des tas d'initiatives positives dans ce pays. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Alors ce soir, des cours de cuisine exotiques et solidaires. On les doit à une toute jeune femme de 24 ans. Elle s'appelle Yasmine Bachouchi. Elle a créé Recettes Nomades il y a 9 mois. Vous avez testé Sandrine et vous avez, je crois, adoré.
Oui, parce que d'abord, avec elle, on voyage, on quitte la France, on part en Serbie, au Congo, en Iran, au Laos, au Sri Lanka, on passe par l'Algérie, on va jusqu'en Indonésie. Bref, on ne vient pas là pour apprendre les secrets de la blanquette ou comment ne pas rater son île flottante, mais pour le sakasaka, pour le tagine, pour le börek, et on apprend tout ça avec Eden, Mahmoud, Ida, Yasmine n'embauche que des chefs réfugiés pour ses cours de cuisine, et des migrants qui, grâce à elles, retrouvent un emploi et surtout, vous allez voir, une vraie, vraie dignité.
Alors les participants se régalent et comme on n'est pas regardant sur les quantités, eh bien l'association distribue aussi des plats aux sans-abri.
Ils sont 10 autour d'une grande table rectangulaire. Au bout de cette table, une femme tout sourire dans son pagne multicolore flanqué d'un tablier. Elle s'appelle Afou. Elle est originaire de Côte d'Ivoire.
Pour commencer, je vais vous appeler les frères et sœurs. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes en famille partout. C'est bon la famille?
Très bien.
Donc, pour dire, je m'appelle Mimié et mon nom est Mimié et Afou.
Mimié et Zoé.
Mimié et Bertrand.
Mimié et Priska.
Est-ce que vous savez dans quel pays vous allez partir là?
C'est en Côte d'Ivoire, mais on n'a pas encore le menu.
Le voilà.
C'est de la tchéquie, c'est la semoule de manioc qui est faite de façon typique ivoirienne. À côté, nous allons avoir la loco, c'est de la banane plantain. On va faire frit, comme des frites. Ah, j'ai entendu la sœur qui a dit hum. Et tout ça avec du poulet à la façon Carrefour. C'est bon la famille?
Très bien.
Là, vous partez en Afrique.
Ouais, c'est ça, c'est le voyage, le grand voyage.
Le même café Afou il y a 10 ans, mais en sens inverse et malgré elle.
J'allais avoir 21 ans.
Ah oui, toute jeune.
Ouais, ouais. Donc c'était quand même très, très, très difficile. Et moi, la cuisine, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Parce qu'à travers la cuisine, c'est notre identité, en fait. Parce que quand on vient, on laisse tout derrière. Donc c'est que ça qu'on peut offrir, notre culture, notre savoir-faire, nos souvenirs.
Par exemple, le taboulé là, c'est quel souvenir qui remonte?
C'est l'enfance. C'est mes parents, mes grands-parents, ma maman, mes frères, mes sœurs.
C'est pour ça que vous avez les yeux qui pétillent?
Oui, oui, oui. Là, c'est le pied. Oui. Vous allez mettre une partie du persil dans le talier.
C'est quoi le talier?
Le moulinex traditionnel. Ça fait avec du bois. En fait, il faut frotter.
Je pensais qu'il fallait tourner.
Non, parce que si vous tournez, vous allez dans le sens des petits escaliers.
Mais ça fait mal au poignet, ce truc. Cuisine du monde.
Et à l'autre bout de la table, petit cours de découpe du concombre à l'africaine.
Faut pas avoir peur du couteau, il faut y aller.
Mais faut pas avoir peur, ouais.
Vous aviez jamais vu ça?
Jamais vu ça. Couper comme ça, j'avais jamais vu.
Technique ivoirienne.
Oui, voilà, c'est la technique. Allez, l'oignon, on le coupe comme ça.
Comment vous trouvez le concept?
Alors, déjà, j'ai jamais fait de cours de cuisine. Donc, déjà, je découvre. Et puis, c'est surtout le concept de pouvoir après le redistribuer. On n'a pas l'occasion tous les jours de pouvoir aider les sans-abri, surtout de cette manière, en fait.
C'est bon, la famille?
Très bien.
Donc, il y a le piment là. Vous allez écraser.
Comme ça?
Ah, c'est super. La famille essaye de faire comme moi. C'est super.
Sur le côté Yasmine, à l'origine du concept, elle aussi retrouve son enfance. Recette Nomade lui est venue de son pays d'origine, le Maroc.
Au Maroc, tous les vendredis, on fait des couscous pour la maison et pour des personnes sans abri. Et en arrivant à Paris, je cuisinais des repas pour moi et pour des personnes dans le besoin, qui habitaient dans mon quartier. Un jour, ça m'a pris, j'ai appelé mes amis le jour de mon anniversaire. Et au lieu de faire une fête traditionnelle, on a fait un atelier de cuisine. Et on a cuisiné des repas pour 70 personnes. À ce moment-là, je me suis dit, je suis crevée, mais c'est génial.
À la fois ludique et solidaire.
Exactement. Ce que je voulais, c'est vraiment créer une sorte de chaîne de solidarité. Comme un petit ricochet. Il y a un chef qui transmet une recette à un groupe de personnes qui fait la recette et qui transmet les repas pour des personnes sans abri. Et pour les personnes sans abri, c'est différent du sandwich sec et classique. Parfois, porte de la chapelle, il y a des personnes qui viennent par exemple de Côte d'Ivoire, qui disent « Ah, mais ça me rappelle la maison, ça me rappelle le pays !»
En fait, c'est tout bénef pour tout le monde.
Ouais, exactement. Tout bénef.
Tu coupes en quatre.
Ouais. En quatre, ouais.
Quant à l'idée de ces recettes des quatre coins du monde, Lionel, c'est sûr, s'en servira.
Ça va peut-être nous donner des idées dans les plats qu'on a l'habitude de faire au quotidien, de se dire bah, « Tiens, je vais assaisonner ça autrement » ou « Je vais agrémenter le plat que j'aime bien faire avec tel autre ingrédient qui me paraît être raccord avec ce que j'ai fait au cours. » Et puis un jour où on est vraiment motivé, se dire « Ok, je vais reproduire la recette que j'ai apprise pour mes amis et passer un bon moment avec eux. »
Ça peut épater les copains aussi, ouais, de se dire.
Ouais, complètement. Ça peut faire son petit effet. Hein.
La famille, si vous avez fini, je vais vous demander de passer un petit coup sur votre plan de travail.
Allez, hop.
Des belles cuisses marinées. Allez.
Yasmine, voilà les fameuses barquettes.
Et voilà les fameuses barquettes bien alignées.
Il n'y a plus qu'à distribuer, quoi.
Il n'y a plus qu'à distribuer. Allez.
Merci à vous.
Merci beaucoup Sandrine Houdin. Je précise que Yasmine a besoin de sous pour se développer. Rendez-vous sur la plateforme de financement participatif Ulule. Et Yasmine a besoin de 5000 euros avant le 30 septembre, paraît-il, pour poursuivre cette activité. Pratiquement la fin de cette émission, Bernard Lahir. Un très grand merci d'être venu ce soir à France Inter.
Merci à vous.
Je renvoie à votre livre « Enfance de classe » publié au Seuil. 1200 pages. Voilà, il y a de quoi faire. Mais c'est très intéressant. C'est la photographie d'une enfance, d'une société. Un bon retour à Lyon. Dans quelques instants, le journal de 19h de Sébastien Paour. À 19h20 ensuite, le téléphone sonne. Nous reviendrons sur l'étude publiée cette semaine par Santé publique France à propos des bisphénols, des phtalates, des parabènes. Conclusion, nous sommes tous contaminés par ces produits. On verra à quelle dose, pour quelle raison. Et si c'est grave, appelez-nous pour en parler au 01 45 24 7000.